Salut à tous, vous êtes bien sûr Envergure, un nouvel épisode de 5 Stars, aujourd'hui consacré à un joueur qui joue en Ignite. Encore une fois, on va parler de Matas Buzelis, je ne sais pas, je ne parle pas le lituanien, donc si vous avez la prononciation exacte, n'hésitez pas à me corriger. Ce sera avec plaisir. Pour ce faire, je suis avec mes deux acolytes, spécialistes de la G-League, Manu et Julien, salut messieurs, comment ça va?
Salut Pierre, salut.
Bah écoute, ça va.
Ils ont survécu à regarder des matchs de l'Ignite, donc rien que pour ça, ils méritent votre respect éternel. On va attaquer tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, avec Matas Buzelis, un prospect qui a sa cote assez bien ancrée, j'ai l'impression, en loterie. Manu, tu vas nous parler un petit peu du contexte de l'Ignite cette année, une équipe qui a brillé par ses non-performances.
Exactement, tu ne peux pas dire mieux. Avec un bilan de victoires, 32 défaites, digne des plus grandes équipes de champions. Donc lui, il a été contexte assez particulier, notamment pour lui, parce qu'il a commencé la saison blessé, donc il a raté plusieurs matchs. Ensuite, quand il est revenu à peu près à décembre, je crois, quelque chose comme ça, décembre-janvier, il a commencé à sortir du banc. Et avec la blessure à mi-saison de Ron Holland, il est devenu titulaire de cette équipe-là. Donc, il a fallu qu'il s'adapte en fait, tout au long de la saison. Donc, ça a été un peu compliqué au début, mais au niveau... présence et au niveau jeu qui était pour lui ça ouais, il a trouvé son rôle un peu mais après le souci Ignite c'est vraiment le contexte et l'effectif, sa construction qui est pas exceptionnelle. Donc cette année encore il y avait plusieurs prospects, donc Matas Buzelis qui était avec Ron Holland, l'espagnol Issan Almanza, le meneur Tate Pink, je ne sais plus comment il s'appelle, London Johnson également, meneur, entre autres. Et de l'autre côté, c'était des vétérans, mais pas trop vétérans, et qui sont censés un peu les chaperonner, et ça ne s'est pas forcément bien passé, parce qu'on se retrouve avec des joueurs qui finalement, eux aussi, ont envie de se montrer. Pourquoi pas retrouver la NBA, donc ça a été assez moyen et le bilan parle pour eux malheureusement. Et ce qui fait que l'Ignite n'existera plus l'année prochaine.
Effectivement, l'Ignite qui a vécu sa dernière saison cette année. On va parler un petit peu des stats bruts de ce monsieur, donc sur les matchs qu'il a joué. Il tourne à 14,1 points par match, 6 rebonds, quasiment 2 passes, 1 interception, 2 blocs et 2 turnovers. Et 2,5 fautes par match. Au niveau des pourcentages, on est à 44% au tir global, 68% au lancer franc et 27,3% derrière la ligne à 3 points, ce qui n'est pas exceptionnel. Et Matas Buzelis, qui a comme palmarès d'avoir chambré Zachary Rizaché en prétendant il n'y a pas longtemps le battre en un contrat assez facilement, sans doute pour faire monter sa cote pour la draft. Julien, je vais me tourner vers toi. Pourquoi on le regarde, Matas Buzelis?
Alors, Matas Buzelis, c'est un ailier américano-lituanien. Alors, pourquoi lituanien? Parce que ses deux parents sont lituaniens. C'est d'anciens pros, tous les deux, qui ont joué en Lituanie. Donc, sa mère et son père. Il a des grands-pères aussi, qui ont joué en pro en Lituanie. Et puis, il a une de ses grands-mères, qui est considérée comme une des meilleures handballeuses du pays. Donc, c'est un enfant de la balle, de différentes tailles. Et toujours pour rester avec la Lituanie, s'est engagé en 2022 à jouer pour l'équipe nationale. Avant l'Ignite, avant cette année, c'était un prospect 5 étoiles à sa sortie de high school. Dans la high school, il y en a que 3 dans 18 mois. Donc, il est originaire de Chicago. Il est né à Chicago en 2004. Il a fait son premier high school dans l'Illinois, après dans le New Hampshire. Et il a fini son année senior à Sunrise Christian, qui est un, je sais pas si on dit programme, une grosse high school en fait, qui a participé notamment au tournoi final des lycées qui s'appelle Geico. Est-ce que je le dis bien, man? Geico, comme ça pour nous.
Magnifique, c'est le Geico Nationals.
Geico Nationals. Il joue avec Miro Little, de Vélor, j'avais envie de le dire. J'aime bien ce joueur, moi, qui est finlandais. Il joue avec, et donc, il arrive jusqu'en demi-finale du tournoi, en battant au passage le Montverde de Stewart, dont tu as parlé dans un autre épisode de Manu, de Quimi Evans, de Copper Flag. Il a battu en demi-finale, magnifique. Et de Derrick Quinn, dont on parlera sur. Bon, je ne vais pas tout faire, hein, vous inquiétez pas. Il perd en demi contre la Dink Academy, voilà. Tout ça pour dire que c'est un prospect qui est connu, qui est suivi depuis longtemps. Bon, il a fait, je pense qu'il a fait le McDonald's, des trucs comme ça aussi. Voilà. Il refuse les offres de Kentucky, North Carolina, Duke, Arizona, UCLA, tout ça, pour s'engager avec Lee Knight. Alors, c'était un petit peu une surprise parce que cette année, il y a les NIL. Hein, enfin, en gros, tu peux être payé pour aller. Il a refusé ça pour s'engager avec Ignite, sachant que l'exposition allait être moindre quoi, que dans des gros programmes comme les trois premiers que j'ai cités notamment. Quoi. Voilà. Donc c'est un gars qui a choisi d'aller directement en Ignite pour se frotter. Peut-être on parlera de ses interviews, de se frotter au pro, au monde professionnel assez vite et pour jouer un jeu plus proche de la NBA, qui d'après lui, lui convenait mieux. Voilà. Donc, il finit quand même la high school avec plus de 15 points par match. Et je te donne les stats parce que, pas pour insister, hein, c'est juste pour comparer avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est autour de 54% au shoot de manière générale, 43% à 3 points. Donc, ça contraste beaucoup avec, avec ce que tu nous as balancé comme stats un peu dégueulasse à la fin de cette année.
Alors, tu nous as très bien décrit son histoire basket. Dis-nous pourquoi on continue, les scouts l'ont regardé cette année en Ignite. Quelle est sa qualité quand on le voit jouer? On l'a jamais vu jouer. Qu'est-ce qui saute au jeu tout de suite?
Bah, c'est la combinaison de taille. Pour moi, hein, c'est la combinaison de taille et capacité à scorer. C'est un gars qui est grand et long, il fait 2 mètres, entre 2 mètres 5 et 2 mètres 8, je pense. Une envergure autour de 2 mètres 8, mais ça, on verra les combine. Il est fin, il fait 100 kilos, c'est un athlète vertical assez, très propre, en fait. Il monte très vite verticalement, c'est assez chouette à voir. C'est un athlète assez complet, il court assez bien. Du coup, cette combinaison avec la projection qu'on pouvait faire de lui comme scoreur à différents niveaux, ça fait pétiller les yeux, quoi. Parce que c'est un gars qui possède potentiellement un shoot extérieur qui pourrait être pas mal par rapport à ce qu'il avait montré avant cette année, qui se déplace bien dans les espaces, en transition notamment. Cette année, on peut le voir aller au dunk assez facilement, traverser tout le terrain très vite et aller au dunk et donner du rythme et des changements de rythme avec son dribble. C'est un gars qui a une compréhension du jeu qui était, comment dire, qui est pas mal. Donc, il sait se déplacer sur demi-terrain, il sait faire du cut, il sait varier le jeu extérieur-intérieur. Et il était projeté comme un playmaker possible avant son année de net. Donc tout ça, tout cet attirail offensif faisait assez saliver.
On va demander à Manu de donner un petit peu son avis sur Matas Bouzélis.
Parce que ce que j'aime bien chez lui, c'est sa capacité, plus que le scoring, c'est vraiment d'écarter le jeu, d'être une menace extérieure, même si 27% à 3 points, ça peut faire frémir. Mais s'il en met... Je pense que ça va s'améliorer parce que les joueurs autour de lui en NBA seront meilleurs. Donc il n'y a pas de raison. Je ne suis pas trop inquiet. Surtout qu'avec ce que dit Julien, c'est que par le passé, il a montré qu'il savait mettre dedans. Donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Donc c'est vraiment ça qui m'attire chez lui. C'est cette capacité-là et aussi à à comprendre lui aussi qu'il sait driver et qu'il il s'en sert beaucoup, qu'il y a beaucoup de drive dans son jeu, notamment main droite. Mais c'est surtout ça que j'aime bien. Et le point négatif, j'irais plus sur son corps. Je le trouve, bon, je l'ai jamais vu en vrai, donc c'est un peu compliqué, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais je le trouve assez, assez fin, assez frêle. Alors je sais pas si c'est un mec qui est plus comme le corps d'un Zachary Risacher qui à l'écran peut paraître comme ça aussi, alors qu'en vrai, avec Julien, on a pu le voir en vrai cette année. En vrai, il a un vrai corps, Zachary. Donc je sais pas trop, mais à l'écran, moi, il me paraît assez, assez frêle et assez fin. Et pas forcément un corps capable d'encaisser les contacts, que ce soit en attaque ou le dominer en. Que ce soit en défense et dominé en attaque quand il drive.
Ouais, moi d'ailleurs, sur le poids, Julien, moi j'avais plutôt 88 kilos plutôt que 100. Donc je ne sais pas. Moi, c'est peut-être que la vérité est entre les deux. Moi, je suis un peu étonné, Julien, je vais revenir avec toi. Sur le côté, moi je trouve que physiquement, toi tu m'as parlé d'explosivité et de capacité à monter haut. Alors, j'ai peut-être pas vu les bons matchs, mais je n'ai pas trop vu ça, moi.
Si, c'est un gars qui est très vite au-dessus de l'anneau quand même. Alors le problème, c'est que, comme disait Manu, il y a un vrai problème de contact en fait. Donc dès qu'il est soumis à un contact, il perd le contrôle en fait. Et le problème, c'est que ça peut arriver simplement quand il arrive à l'arceau, mais ça arrive aussi avant. Et par exemple, quand il doit initier un contre un, s'il prend un premier choc, il perd complètement le maniement de balle, tu vois. Après, par rapport à la hauteur, si c'est quand même un gars qui tourne à plus de 2 blocs par match, et c'est une de ses qualités en défense, c'est qu'il est souvent en protection de l'arceau. Alors là, je fous en l'air complètement la programmation du podcast, non, Pierre? Parce que je
Non,
me
non,
remets
non,
sur la
pas du tout,
mauvaise.
parce que pour moi, c'est une de ses qualités, c'est les qualités aussi défensives qu'il a. Donc, on est toujours dans les qualités, donc on est bon, ouais.
Justement, il est c'est un joueur assez fort, je trouve, on ball, off ball, pardon, off ball. C'est un gars qui aide beaucoup off ball. Il est très présent là-dedans, et il est au niveau de l'aide pour protéger l'arceau. Il est tout le temps là et il va assez haut. Et on retrouve le même problème du contact en fait. C'est que avec un corps plus solide, on a l'impression qu'il pourrait faire. J'exagère, tu vois, 1 ou 2 blocs de plus par match, tu vois, dans sa moyenne. Parce que l'approche de l'arceau, ben, s'il prend un contact, il perd toute sa dynamique, en fait. Mais si, c'est un joueur, si tu regardes ses highlights, il est allé péter des dunks en contre-attaque, même sur demi-terrain, si on le sert et que il arrive à se lâcher, c'est un type qui monte très très vite à la nouvelle. Alors, explosif, c'est sûrement, c'est trop. C'est pas le bon mot, explosif. C'est pas un type, c'est pas comme Whitmore, tu vois. Mais c'est un gars qui monte vite verticalement. Voilà. C'est un gars qui monte vite verticalement.
Manu, justement, en défense, c'est quand même assez impressionnant, ces 2,1 blocs, sachant que, comme l'a dit Julien, c'est surtout du second rideau, mais il y a aussi peut-être un QI défensif assez en place, non?
Bah ouais, parce que bah, déjà sur le placement off-ball, parce que c'est vraiment des fois, il est sur de l'aide, enfin sur du second rideau, sur de l'aide, où il est assez. En fait, il est tellement long aussi et grand que finalement, il a besoin de faire moins d'efforts pour arriver au but. Donc, c'est une phase de. Lié à ça, la phase de placement, sa capacité à très bien se placer en défense. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir en high school aussi. Il était déjà comme ça, il faisait assez bien ces phases-là défensives. Et il avait beaucoup de contres aussi. Donc, c'est intéressant de le voir transférer ça à un niveau supérieur. Donc, après, moi, je suis un peu plus circonspect sur sa défense en 1 contre 1. Je trouve qu'il se fait un peu trop souvent prendre sur le premier pas adverse, notamment sur la fin de saison où il a beaucoup joué. Où là, je trouvais que c'était vraiment un point noir et un point négatif pour son équipe.
Pour les points négatifs, parce que je crois on a été assez exhaustif sur les points positifs, on voyait les tout de suite, donc je te laisse continuer, Manu.
C'est vraiment ça, moi, sa capacité à pas bien prendre l'info et à être un peu lent dans sa réaction. Et du fait, du coup, premier pas, il passe. Il n'a pas ce temps de réaction suffisamment grand pour prendre l'information et bien se placer, bonne latéralité, pour revenir et garder le contact avec son joueur, avec le porteur de balle. Ça, c'est, je trouve, moi, que c'est un vrai point noir. Et comme je le disais, plus il a joué en fait en fin de saison, avec la blessure de Renaud Land notamment, c'est devenu l'option numéro 1 de l'équipe. Et bah, du coup, défensivement, il avait beaucoup plus de possession à défendre. Je le trouvais vraiment, vraiment inintéressant là-dessus, cette non-capacité à comprendre qu'il s'était devenu une cible, en fait, quasiment pour les équipes adverses.
Julien, dans les points à travailler, qu'est-ce que tu mettrais ?
En fait, les deux points à travailler, on les a évoqués, c'est bon, le shoot, on en a parlé, retrouver son shoot, quoi. C'est son physique, en fait, c'est qu'il faut qu'il s'épaississe. Justement, sur le Geico, là, c'était marrant de le voir à côté de Cooper Flagg, parce qu'on sentait déjà, alors que Cooper Flagg, il a quoi? Il a un an ou deux ans moins que lui?
Il avoir deux ans. En 2006.
Hein. Ouais, c'est ça.
Il y a deux ans.
Il a 20 ans presque. Matas, et il est. En fait, Cooper Flagg, il paraît plus épais. Hein. Il paraît plus. Pas plus large, mais plus épais, en fait. Tu vois, du torse, de tout. Quoi. Donc, ça. Il y a vraiment un problème par rapport à ça, et j'insiste un peu, alors que je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que ça altère beaucoup son jeu à plein de moments différents, tu vois. Que ce soit en attaque, justement, donc les contacts au dribble, enfin, en un contre un et les chocs à l'arceau, et puis en défense où, en fait, il résiste pas, il prend un screen, il résiste pas, quoi. C'est un problème pour lui, ça.
Ouais, moi j'avais noté ça aussi, ce manque de puissance et ce côté de dureté.
Voilà.
On a l'impression qu'il se fait, à chaque contact, il se fait bully, quoi.
Et l'autre impression qu'on peut avoir, c'est qu'il va souvent au panier, il a cette espèce de, comme a dit Manu, il a cette espèce de facilité, en fait. Parfois on dirait qu'il glisse, ce gars. Hein. Dès qu'il a un peu d'espace, il est capable soit de shooter avec plein de manières différentes, il est capable de faire de se créer de l'espace. Et il se lâche, il va au contact, il tombe et il n'y a pas faute, quoi. Il a 2,2 fautes par match et c'est peu pour la quantité de drive qu'il fait, je trouve.
Non, je suis assez d'accord globalement sur ce que vient de dire Julien. Et toi sur ce manque un peu physique et de puissance, alors je ne sais pas trop comment ça peut se régler. Bon, il y aura un passage en muscu, mais est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas. Je pense qu'il va s'épaissir quelque peu avec les staff NBA, mais je sais pas si ce sera suffisant pour gagner en puissance. C'est vrai, parce que c'est plus ça qui lui manque. C'est vraiment cette puissance, cette capacité à absorber le contact pour justement ne pas tomber à chaque fois ou se servir de sa longueur, prend l'avantage en l'air quand il en a sur ses drives pour justement tenir face à des mecs qui vont faire quasiment trois fois son épaisseur pour certains, quoi.
Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il n'est pas un petit peu soft encore? Un petit peu
ouais, ça se défend.
Un petit problème de mentalité, peut-être un petit manque d'agressivité en fait. Et je sais que justement, alors j'ai parlé de ça un petit peu pour comme une balle perdue, mais clash entre guillemets qu'il a voulu avoir avec Risashi, ça, les Américains ont plutôt bien aimé ce côté-là qu'ils n'avaient jamais vu de un petit peu agressif de Matas Bouzélis.
Moi, je sais pas. Après, ce serait étonnant, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui a toujours joué aux États-Unis, toujours qui a grandi là-bas, qui a quand même plus ou moins cette mentalité-là. De joueurs américains, même s'il est européen. Donc ce serait étonnant qu'il ait pas qu'il ait gardé tous les points européens et pas absorbé un peu d'américains, même si ça se découvre sur une citation qui est absolument légendaire, qui est très américaine pour le coup. Et donc à voir. C'est soft, ça, honnêtement, je ça se défend. Je vois ce que tu veux dire.
Bah, je sais pas en fait, j'essaie de voir parce que c'est quand même un gars qui va au charbon, moi je trouve. Alors tu vois quand il a justement les derniers matchs qu'on a pu voir, attention, bah, il va au rebond quoi. Le gars va au rebond, il remonte. Tu vois, c'est pas un gars qui se cache quand même. Il s'est pas caché dans les derniers matchs parce qu'il a des grosses stats au niveau des points en fait, tu vois. Et il est propulsé première option, bah, il y va quoi. Il va shooter. Bon. Catastrophique jusqu'à la fin. Je vais aller voir les pourcentages de 3 points à la fin, c'est cata. Mais il s'est pas caché quoi. Donc il a quand même l'envie de se montrer, de, tu vois. Donc soft au niveau physique, ok. Au niveau mentalité, je sais pas. Après, tu vois, moi je, si tu, moi je, si tu dis soft au niveau de se cacher, d'avoir, d'être un petit peu timoré dans le jeu, moi je dirais non à ce moment-là.
Non, c'était pas vraiment dans ce sens-là, c'était plus dans le sens justement que, bah, quelquefois on a l'impression que bah, c'est pas lui qui a envie de faire mal en fait. C'est pas
D'accord.
qu'il a pas envie d'être lui l'agresseur en fait. C'est pas le mec qui met le premier coup. Et ça, c'est plus dans ce sens-là. S'il y a un petit manque d'agressivité, tu vois, dans ce qu'il fait, notamment en attaque quand il va au cercle. On a l'impression quelquefois il provoque des fautes alors que. Mais il y a aussi des fois, on pourrait dire, mais là, normalement, vu sa taille, etc., il doit y avoir N1 tous les jours, quoi. Et en fait, bah non, le ballon touche même à peine le panier parce qu'il va pas assez vite, pas assez fort, et qu'il n'y a pas assez cette volonté de y aller. C'est plus ce que moi, j'ai ressenti. Après, c'est à l'écran, encore une fois, c'est très, très discutable. C'est plus de. Si tu vois ce que je veux dire, Julien.
Ouais, mais moi je l'interprétais vraiment comme un, je l'interprétais comme un manque de puissance, tu vois, encore une
Oui.
fois, un manque d'impact. Je sens qu'il explose tout simplement, tu peux rien y faire pour l'instant.
Ouais, ok. Ça se tient complètement. Vous êtes inquiet pour le tir ou pas du tout?
Bah, c'est hyper dur, mais ouais, vu les stats qu'il avait avant, et vu, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'au niveau film, quand il prend des shoots, t'as l'impression que ça peut rentrer à chaque fois. Il est capable de mettre des shoots sur des défenses en close-out. Il est capable de faire des step-back, tout ce que tu veux, tous ces trucs, tirer après dribble. Même si les 3 points, il est à 100%, je crois, en catch and shoot. Le shoot, on a l'impression qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça rentre, quoi. Après, les pourcentages sont cata. Donc, sur 20 matchs, est-ce que ça suffit à lui dire c'est mort pour le shoot? Je pense pas.
J'entends. Messieurs, comment on l'imagine en année une, Matas Bouzélis?
Moi, je pense que ce sera compliqué. J'ai peur des allers-retours en G-League pour se performer un peu. Je sais pas trop comment dire. Pour s'aguerrir, peut-être.
Et dans quel genre de rôle on le voit aussi?
Moi, je le vois bien avec plusieurs missions offensives. Je trouve sur le, il y en a une qui est vraiment intéressante chez lui, c'est sur les coupes. Je trouve qu'il est vraiment bon sur les coupes, sur les backdoors, sur ce genre de choses. Et donc un peu un joueur de fin de chaîne, j'ai envie de dire, qui va marquer sur des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est que finalement, si tout se goupille bien, c'est un joueur qui est polyvalent. Parce
Ouais.
qu'il peut driver, il peut shooter de loin, il peut cut. Dans le meilleur des mondes, c'est un très bon joueur. Hein.
Ah ouais,
Mais il
carrément.
y a tellement de choses négatives qu'on a parlé, c'est le corps, ce manque de puissance. Bon, tu as dit, si je me souviens, 45% au lancer franc.
Non, non,
68.
68.
68. C'est catastrophique.
C'est moche.
Au
Sur
cercle,
un.
il fait 2-8. Mais 68% au lancer franc, c'est catastrophique. Donc moi, ça me limite sur sa capacité à shooter plus tard. Je me dis, s'il a moins de 80% au lancer franc, ça veut dire que sa gestuelle, elle n'est pas fixe. Il n'a pas encore son tir. De bien cadrer. Donc c'est compliqué à 20 ans. C'est en 2004, hein.
Ouais, carrément,
Donc
2004.
ça me questionne. Et ouais, le rôle, ouais, c'est un joueur de fin de chaîne pour moi.
Tu le vois comment dans... Pareil, même question.
Moi, je vais faire le côté optimiste. Alors, il faut contrebalancer. Voilà, si le sous 30, pourquoi pas un rôle à la Grady Dick, tu vois, qui se révèle petit à petit dans l'année, fin d'année, où il arrive à rentrer ses shoots et ça change la vision qu'on a de lui. Et bon, après, Dick, je peux te dire ça comme ça, c'est pas choquant à la radio. Dick, il avait un shoot dans son universitaire. Il n'était pas arrivé. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que.
Même moi, c'était son gros point fort, ça l'a toujours été. Donc,
ouais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a. Il a galéré, puis il a réussi à le mettre et il est sur le terrain en fin d'année. Voilà, on a envie que ça se passe comme ça pour lui, qu'il arrive à avoir un rôle de off-ball en attaque. Il faut qu'il sorte de ce corps de bébé, quoi. Enfin, c'est de ce corps un peu jeune, en fait, qu'il épaississe, quoi. Clairement.
Pour ceux qui l'ont jamais vu, quel joueur il vous fait penser, potentiellement? Vos petits jeux des comparaisons.
Si tu me lances là-dessus, t'es sûr, je suis inconscient, Pierre.
mais justement, je sais qu'on va toucher l'incroyable et l'excellence, Julien. Je sais très bien ce que je fais.
Bah, on en parlait avant le podcast, et c'est vrai qu'il y a des noms. Enfin, les noms qu'a trouvé Julien, c'est très drôle parce qu'en fait, on se rend compte que les mecs vont pas chercher bien loin, quoi. Donc c'est assez drôle. Dis quelques noms, c'est très drôle. Ouais.
Pour marquer ce que tu as dit, tu vois, il y a Franz Wagner, Edo Turkoglu et Tony Kukoc, tu vois, donc les blancs.
Ouais.
Grand shooter, potentiel playmaker. En fait, c'est ça. En fait. C'est, si tu veux, ces noms, ils sortent parce qu'il y a une. On veut qu'ils deviennent ça.
C'est que les physiques ressemblent.
Voilà, après, Tony Kukoc, c'est. Même les trois, mais Turkoglu et Kukoc, le niveau qu'avaient ces gars, c'était.
C'est quand même des légendes du basket de leur pays, quand même.
Bah, c'est juste irréel, quoi.
Non, mais voilà, je doute que Bouzélis soit une légende dans son pays du basket, mais je vous souhaite. Encore,
il est lituanien, ça peut très vite y arriver.
et puis, il y avait la Marodome au milieu, mais en fait, je pense que l'esprit, c'était de dire les gars polyvalents qui sont pas des premières options en NBA, parce que c'était ça. Coach, il a jamais été, il a été sur la fin de sa carrière, je crois, un petit peu, mais.
Un peu au Bulls quand même, sur la fin Bulls, des Bulls.
Non, même pas. Franchement,
c'était un vrai, pas la première option, mais il avait un vrai, vrai rôle offensif. Hein.
Alors, il avait un vrai rôle.
Sans Michael. Hein.
Voilà.
Quand Michael n'était plus là, pas là.
Il y a Pippen qui a pris le. Bon, on va pas refaire, parce que là, on part dans des. mais Odom, je comprends l'idée, mais à part que même lui, il arrive en NBA.
Il est exceptionnel.
Il a des qualités de ouf, ce type, quoi. Un dribble, un maniement de balle de folie, un corps, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, pour redevenir sérieux, je sais pas, on a entendu, assez proche de nous, Mike Dunleavy Jr., tu vois.
C'est pourquoi ça. Pas.
C'est un peu plus compréhensible, tu vois, ce grand shooter capable d'écarter.
Ouais, pourquoi pas.
Et un peu de couper par ce que je disais, quoi.
Alors moi, je me moque de ce que je vous rapporte. Moi, ma comparaison comme ça, en fait, ça vient de la frustration aussi que, tu vois, ce gars qui a l'air d'avoir des capacités vraiment et qui n'aimait pas sur un terrain. Moi, j'avais balancé Knox, tu vois. Vraiment pas sympa du tout. Mais c'est, tu vois, après, Knox à Kentucky, c'était un shooter exclusif, quoi, non? Il défendait
pas. Ouais, mais c'était ce joueur-là, ouais, qui était au bout de chaîne.
Voilà, tu vois. Alors j'espère que ce sera une autre carrière pour lui que ce qu'il a fait en.
Ouais, parce que sa carrière, elle est catastrophique.
Ouais. Il est encore là, hein, mais en pointillé. Ouais.
Manu, même question. Est-ce que ça te fait penser à un joueur?
À moi. Tout pareil. Non, je suis très mauvais à ça. On ne peut pas être à la hauteur des Américains qui ont des outils de pointe pour trouver des comparaisons. Non, mais c'est vrai, j'ai eu la chance de voir un peu. Et en fait, tu rentres toutes les données métriques du garçon et les statistiques, les trucs du corps, et tu as des comparaisons.
Ah ouais?
Donc
Ouais,
c'est juste magique.
ouais,
Nous, on
c'est.
galère à chercher comme des teubés.
Bon, pour la prochaine fois, les gars, on fait chat GPT et puis on sera tranquille.
Ah mais tiens.
Donc
Et tu sais que
c'était assez drôle.
Alex, il était fort à ça. Hein. Alex, il arrivait à trouver des outils comme ça.
Ça, c'est le talent.
Ouais, c'est le talent. Tout dans le talent. C'est okay.
Alex, qu'on embrasse. Évidemment, pour remettre un petit peu de sérieux, on y croit comment en Matas sur la durée, 20 ans?
Ouais, moi assez moyennement. Et le Pacific Night ne me fait pas aller plus loin que ça, quoi. Parce qu'en regardant, finalement, il y a quoi, il y a 4 saisons, Ignite, quelques joueurs draftés qui se comptent sur les doigts d'une main. Et c'est tout, quoi.
Je crois qu'il y en a 7 en plus.
Ah ouais, tant que ça.
Attends, je te dis. Green, Kuminga, Todd, Isaiah Todd, Daniels, Beauchamp, Hardy, Anderson, Leonard Wilder, Sissoko et Morave. Morave.
King, incroyable.
Ouais.
Ouais, non, moi, ce passif-là ne me fait pas rêver. J'ai peur.
L'optimiste. Moi, je garde mon rôle d'optimiste. Comment on dit? Au risque, grande récompense.
High risk, high reward.
Voilà. Si tout clique, ça peut être un joueur très intéressant. Moi, je pense pas. Je pense qu'il sera jamais le playmaker qu'on veut nous vendre.
Ouais.
On n'en a pas parlé parce que je sais pas si Manu, tu as des choses à dire dessus, mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est un bon connecteur parce qu'il a un bon QI, il voit des passes, il les fait bien, mais c'est pas un passeur exceptionnel.
Non,
mais ça
puis je
peut être
trouve,
un...
sur le Ignal, je trouve qu'il était beaucoup plus dans le tir, concentré sur le tir et marqué.
Ouais.
Moi, je l'ai pas beaucoup vu initier de pick and roll ou quoi que ce soit.
Non, non.
Parce qu'il avait la balle en main, énormément. Mais j'ai pas trop vu d'initiation pour les autres.
Eh ben, on va lui espérer que tout clique. Sinon, ça fait ni en bête clic sur ce bon jeu de mots. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis, on se dit évidemment à très vite pour un nouveau prospect détaillé et disséqué par nos soins. On vous embrasse. Bye bye. Ciao.